J'ai demandé aux personnes qu'il pourrait choquer de ne pas prendre l'écoute pour éviter toute surprise et tout reproche ultérieur.
La Corse, communauté de destin ?
Gilles Simeone a inauguré au musée de la ville une salle où figure le plus ancien drapeau corse datant du XVIIIe siècle.
Oui, c'est vrai, au Diotto et Gemre, et Festadien Lazion, et c'est vrai que c'est un moment particulièrement émouvant puisque ce drapeau était au musée, mais il était dans les caves. Aujourd'hui, nous allons l'exposer et c'est un moment d'autant plus fort que, d'après les spécialistes, c'est le seul drapeau existant de cette période, c'est-à-dire de la période de la Corse indépendante.
En Corse, depuis les dernières régionales, les autonomistes de Gilles Simeoni et les nationalistes de Jean-Guy Talamoni sont aux commandes. Qu'ils parviennent ainsi aux responsabilités a pu surprendre. En réalité, c'est eux qui donnent le tempo à la vie politique corse depuis 40 ans. Leur ascension s'est esquissée dans les années 70. C'était l'époque où les Corses tentaient d'inverser le déclin de leur langue. Montélisson déversait en même temps ses bouts rouges entre Cisco et Capria au large du Cap. Les projets de tourisme de masse faisaient craindre pour l'île le sort des Baléares. Les rapatriés s'installaient nombreux dans la plaine orientale. C'est d'ailleurs à Aléria, dans une cave appartenant à l'un d'eux, qu'eut lieu le premier affrontement grave. Edmond Simeoni en assuma la responsabilité et devint un symbole. Pendant son procès, le FLNC publia son premier communiqué. L'autonomisme et le nationalisme étaient constitués. Au lendemain des régionales, Edmond Simeoni a pu assister depuis la tribune du public de l'Assemblée de Corse à la réunion officielle des deux courants et à l'élection de son fils Gilles à la présidence de la collectivité territoriale et il a avoué son émotion. Maintenant commencent de nouvelles difficultés. Quelle place sera-t-elle faite aux nouveaux habitants venus du continent qui sont de plus en plus nombreux ? Et l'incident de Cisco, ce 13 août, a révélé l'importance d'une population immigrée qui représente peut-être 10% du total des Corses. Elle est invitée à demeurer invisible, mais elle est là. Ses enfants naissent dans l'île. Les responsables actuels aiment parler de communauté de destin. Que peut-on entendre précisément et historiquement par là ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Marie Arrigui, bonjour.
Bonjour.
Qui a publié avec le grand archéologue Olivier Joas une histoire de la Corse et des Corses, c'est chez Perrin, et qui vient d'achever sa tâche d'inspecteur pédagogique régional. C'était il y a 15 jours que vous avez pris votre retraite, chargé de la langue corse. Quand vous enseignez sur le continent, il y a bien longtemps, vous vous aperceviez que vous reveniez de plus en plus souvent au village.
Oui, en fait, revenir en Corse, ça n'a pas été vraiment une décision, ça a été un constat a posteriori, puisque je venais d'abord en été, comme vous le disiez, ensuite à Pâques en été, ensuite Noël, Pâques, et donc c'était clair que j'avais envie de vivre en Corse.
Il y a beaucoup d'agrégés dans le village ?
Pas mal, il y en a moins à l'heure actuelle qu'il y en a eu.
C'est-à-dire que dans un village de 500 habitants, il peut y en avoir une dizaine.
Oui, un peu moins quand même maintenant, je n'ai plus le chiffre en tête.
C'est quand même caractéristique ça. Oui. Vous avez participé comme ça, sans le vouloir, à l'envol démographique de la Corse. Il n'y a jamais eu autant d'habitants en Corse, 330 000 habitants peut-être.
Oui, c'est vrai que cette hausse démographique, c'est en petite partie des retours de Corse qui ont vécu sur le continent, soit des retraités, soit des gens qui ont fait leurs études et qui reviennent, en grande majorité, ce sont quand même plutôt des gens au départ extérieurs à la Corse.
Hein, et des gens assez jeunes et qui vont jusque dans les villages, il n'y a pas que le littoral qui soit concerné. Pas mal d'immigrés aussi.
Pas mal d'immigrés, oui, à peu près, au fond, toute la Corse est concernée par cette hausse, à part la montagne vraiment intérieure, oui.
Des Nord-Africains et des Portugais, on aura l'occasion voilà.
Beaucoup
d'en
moins d'Italiens,
parler.
Autrefois l'immigration était essentiellement italienne, elle ne l'est plus du tout.
Autrefois on faisait ses études en Italie, ça a été le cas de Paoli. Alors on va commencer en évoquant la figure de Paoli, parce que le nationalisme, l'autonomisme, l'identité corse, elles sont très marquées par Pascal Paoli, mais ce n'est pas un nationaliste pur et dur.
Ben non,
comme il y en aura au 19e.
Voilà, c'est avant l'ère des nationalismes proprement dit. C'est un homme des Lumières avant tout. Et au fond, il a réussi à unifier un certain nombre d'éléments qui étaient apparus progressivement dans la lutte contre Gênes. Et on peut dire qu'il a créé un État démocratique à part entière. C'est peut-être la différence entre la Corse et d'autres régions à forte identité en Europe, c'est le fait d'avoir eu un État de ce type.
Avec une constitution en 1755, qui était très proche des idées de Rousseau et qui a été très connu à travers l'Europe. C'est lui qui a pris par la main les Corses si isolés pour les mener sur les chemins du monde. Et venaient des étrangers en Corse, par exemple, cet Écossais anglais qui s'appelait Boswell et qui est ici présenté par un inspecteur comme vous de l'éducation nationale. Mais alors, vous savez, un inspecteur à l'ancienne, Raoul Audibert, dont la diction était très fleurie.
C'était à l'automne de 1765. Il vit Rousseau, reçut de lui une belle lettre d'introduction pour Paoli, puis parti pour Livourne. Un seul accart où le voyageur parvient enfin. Des sentinelles veillent, 300 mercenaires, dont plusieurs sont prussiens, forment la garde de Paoli. À sa porte, 5 chiens féroces. Dans son antichambre, des gentilshommes corses, dont Boswell, plein de troubles et de timidité, fend la haie jusqu'au bureau du général. « Je voyage, monsieur, lui dis-je, et j'arrive de Rome. » Après y avoir vu les ruines du peuple le plus courageux de la terre, je viens ici contempler le commencement et l'élévation d'un autre peuple qui ne le cède point aux anciens Romains. Il reçut mon compliment d'un air gracieux en observant qu'il y avait peu d'apparence que les Corses puissent jamais, comme les Romains, devenir un peuple conquérant. Mais rien n'empêche, ajouta-t-il, que la Corse ne puisse devenir un pays heureux et florissant.
Et pour un pays florissant, une identité heureuse, je vous fais raconter une histoire que j'ai lue sous votre plume. Les Corses étaient habitués quand les descendants des Sarrasins et des Barbaresques s'échouaient sur leurs rives à les prendre en prisonniers.
Et à piller les bateaux.
Voilà. Ouais. Et quand un bateau tunisien arrive à l'époque de Paoli.
Oui, effectivement, on a dans la correspondance de Paoli l'ordre de protéger le contenu du bateau et de bien traiter l'équipage, d'où ensuite des rapports qui sont devenus assez étroits avec la Tunisie. Le Bey a envoyé à Paoli un certain nombre de cadeaux, un cheval et je ne sais plus quoi. Et ensuite, d'ailleurs, la Tunisie refusait de reconnaître l'annexion à la France. Il a fallu une pression militaire française
pour y contraindre. Les cadeaux avaient été envoyés dans la capitale de Paoli, à Corté. Alors, dans le legs de Paoli, il y a aussi l'université de Corté, parce qu'il avait interdit aux jeunes Corses de quitter l'île sous prétexte d'études universitaires en Italie, et il avait ouvert une université tenue par les franciscains, souvent associée à ce qu'il y a de plus révolutionnaire en Corse. Hein. Elle n'a pas duré longtemps, puisque l'ordre français s'est installé peu d'années après, en 1768, mais l'ombre portée de l'université de Corté était telle que quand il a été question d'ouvrir un établissement d'enseignement supérieur dans les années 1970, quand il en a été question sérieusement, on a pensé à Corté.
Oui, c'est une des raisons, en tout cas, à l'époque de Paoli, au fond, l'université est créée par lui pour avoir des cadres de bon niveau, parce que le grand manque de l'État paoliste, ce sont des cadres à la fois, disons, fidèles à la Révolution corse et compétents. Donc il s'agit de les créer. Effectivement, l'université elle-même a duré 3 ans, hein, 3-4 ans à l'époque, et elle a été fermée ensuite. Et en fait, dès la conquête française, il y a une revendication de réouverture, à laquelle, à un moment donné, le pouvoir monarchique répond par que la nation corse en fournisse les moyens elle-même, enfin, des choses de ce genre. Et donc, c'est une revendication qui est parfois en sommeil, mais qui n'a jamais totalement disparu et qui, dans les années 60, a ressurgi avec beaucoup de force.
L'université de Corté, où vous enseignez, a maintenant 40
enfin,
ans.
Quelques cours.
Mais alors, quand on veut avoir un grand destin comme vous, comme votre fils qui a été reçu à Polytechnique, on va quand même en classe préparatoire à Paris, non?
Bah, si vous voulez, moi, je suis allé en classe préparatoire à Paris parce que, à l'époque, il y avait même pas à Bastia les 2 années, hein. Il y avait qu'une année de classe préparatoire et pas d'université. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, si ça avait existé. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un type de formation où, de toute façon, on a intérêt à partir et à revenir. Bon, pourquoi pas.
Mais en même temps, pour les enfants de famille modeste ou les enfants pugnaces, c'est une très belle opportunité. Corté, voici un témoignage France Culture 1988 d'un étudiant du Puy du Président de l'époque.
Se payer des études sur le continent, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et puis, j'ai fait ça aussi parce que pour être dans ce que je considère comme ma région, quoi. J'ai envie de défendre l'université de Corté parce que je considère que c'est un des moyens qui permet et qui permettra à la Corse de se développer et de prendre l'ampleur qu'elle doit avoir, qu'elle devrait avoir.
D'abord, tous les étudiants ne devront pas rester en Corse, ne pourront pas rester en Corse. Bon, ça c'est un premier point, une partie devra aller ailleurs. Mais même ceux qui vont rester vont être dans un premier temps plus nombreux que les emplois offerts. Mais justement, c'est là que réside tout notre pari, si vous voulez. C'est que le développement va être créé par cette masse de jeunes très diplômés, très formés, et qui n'auront pas d'emploi. Donc, qui vont créer eux-mêmes leur emploi ou leur activité. Par conséquent, moi, je mets beaucoup d'espoir dans cette jeunesse, même si pendant un temps, elle va peut-être un peu en pâtir, il va y avoir un temps d'adaptation, eh bien, nous pourrons assez rapidement commencer à créer un tissu post-industriel. Et c'est ces jeunes-là qui vont le créer. Alors, bon, pour eux, la première vague risque d'en pâtir un peu. Mais tôt ou tard, il faudra que ça débouche, il faudra qu'il y ait un développement.
Alors, au président Balbi, Edmond Simeoni, le leader autonomiste, avait coutume à l'époque de dire « Oui, attention, il ne faut pas que du droit, il ne faut pas que des lettres, il ne faut pas tourner le dos à l'avenir, il faut des disciplines tournées vers l'économie, le développement, l'écologie. » Enfin, les lettres, c'est pas mal, parce que c'est grâce à l'université de Corté qu'on a maintenant 120 professeurs certifiés de Corse, 110 postes peut-être, mais 120 certifiés, qui sont dans le secondaire.
Oui, je crois qu'effectivement, là, on est passé d'un début d'enseignement du Corse où il y avait des gens corsophone, professeur d'autres disciplines, bon, mais sans formation particulière en Corse, qui enseignait. Ensuite, cet enseignement, évidemment, est beaucoup monté en quantité, donc en besoin. Et l'université de Corse a un cursus d'études corse tout à fait performant. Et le CAPES, ensuite, bon, est un CAPES comme les autres.
Hein. Et c'est puis demain, il y aura une agrégation, peut-être.
Demain, il y a une annonce d'agrégation, effectivement, récente
que vous portez
de la ministre. Oui, pas tout seul.
Avec fermeté.
Et pour le reste, ce que disait Balbi, je crois qu'en fait, ça a été réalisé quand même depuis. Le fait que l'université soit très performante dans un certain nombre de créneaux scientifiques, je crois que c'est atteint. Hein. Et par ailleurs, ce que disait l'étudiant aussi est très juste. Par exemple, en médecine, il y a une première année. Ensuite, les gens qui sont sélectionnés continuent à Paris ou à Marseille ou autre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas des centaines de gens qui partent pour faire médecine et ensuite sont éliminés et doivent revenir en Corse.
Alors, vous savez quelle est la question qu'on pose classiquement à tous ceux qui défendent les langues régionales de France, si je peux traiter le Corse de langue régionale de France.
C'est un territoire
français. Oui, mais les lieux d'expression modernes. Alors, scientifique, technique, de la langue, existe-t-il ?
Oui, c'est vrai qu'il y a deux étapes, en fait. Hein. Je crois que l'école peut apprendre aux Corses et aux autres la langue corse. Bon, ce n'est pas parce qu'on sait une langue qu'on l'utilise. Et effectivement, on a manqué jusqu'à présent de lieux de lieu d'utilisation du Corse. Bon, je crois que le plan Lingua 2000 tient 2020, fait par l'Assemblée de Corse, prend désormais en compte un peu tous les domaines. Et beaucoup de structures, d'entreprises, d'administrations forment leur personnel maintenant, qui passe ensuite un certificat de niveau de Corse dans le cadre européen.
Une colle, Jean-Marie Arrighi, sur quelle chaîne de télévision a été diffusé le commentaire en Corse du match Ajaccio-Bastia ?
À quelle époque ?
Là, tout récemment.
Là, tout récemment.
Eh bien, Bein Sport, c'est-à-dire une chaîne arabe.
Ah oui.
Intéressant à noter, c'est un peu le fil rouge de notre émission.
C'est une ouverture méditerranéenne.
La communauté de destin méditerranéenne de la Corse. La langue, ça, l'opinion a retenu ça. Elle a aussi été portée par les traditions polyphoniques qui, quand vous êtes revenu en Corse, étaient réfugiés dans les montagnes.
Oui, tout à fait. Après une période où, au fond, la chanson corse c'était de la chanson d'inspiration, méditerranéenne générale, hein, napolitaine parfois, etc. Il y a eu vraiment une volonté de retour à des traditions, mais qui, dans beaucoup d'endroits de Corse, a été plutôt une arrivée de ces traditions. Parce que c'est vrai que la padiella était limitée à une zone géographique précise. Maintenant, on la chante absolument partout. Hein. Si vous permettez, je crois que le rôle des groupes de musique a été très important, puisqu'au fond, il y a toute une période où il n'y avait pas de parti nationaliste, du moins plus révolutionnaire, et ce sont les groupes de chant qui portaient ce discours. Hein.
Comme Canta ou Popolo Corso, et écoutez de près, parce que il est dit que la francisation a assez duré, et qu'un jour viendra l'indépendance, notre espoir, le peuple vaincra.
Tout libéri, tout fratelli, figlio d'Azela, o sangue grosso, per un rinforzo, sempre nascerà. Alla riscossa, tutti alla mossa, union sbuccerà. Nostra speranza, popolo vincerà. Polsi sinceri, gigone fieri, bravo libertà, libertà. A franci stati, frate durata, unione salterà.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
La Corse, communauté de destin, avec Jean-Marie Arrighi, qui a publié il y a quelques années chez Perrin, c'est en collection de poche, tant plus avec Olivier Jehas, une histoire de la Corse et des Corses. Le groupe, il était divisé hein, quand il chantait
oui,
ça.
Oui, parce que cette chanson est quand même très dure à la gloire du FLN, et à mon avis...
Quand on dit FLN en Corse, il faut FLNC, dire FLNC sur le continent.
Oui. Oui. Et bien sûr, c'est loin d'être la plus poétique ou la plus belle, je pense, de Canta Popolo Corso.
Donc il y en a qui restaient les bras croisés, voilà, les membres du groupe.
Il y avait division tout à fait du groupe et en même temps un aspect démocratique hein, puisqu'ils ne se disputaient pas non plus. Mais certains étaient en désaccord avec le texte et se croisaient les bras pendant que les autres chantaient ce texte.
Que nos auditeurs se rassurent, nous n'allons pas faire les annales, c'est très bien tenu dans votre livre, du nationalisme et de l'autonomisme qui sont deux tendances différentes, chacune d'ailleurs divisée. Je vous propose qu'on prenne deux moments. Le premier, c'est 1965. Le second, ce sera Siscou en 2016, où on peut essayer d'étudier, à la faveur de l'arrivée d'une communauté étrangère, entre guillemets, les réactions des Corses. Ici, nous sommes en 1965 sur la plaine orientale, dans le Fiumorbe plus précisément. C'est un reportage de 5 colonnes à la une.
Ces terres stériles de la plaine orientale, le gouvernement a promis en 1957 aux Corses de les mettre en valeur. La Somivac allait faire d'immenses travaux pour amener l'eau, acheter de grands domaines pour les défricher, construire des bâtiments, les diviser en lots pour les confier ensuite aux agriculteurs. Elle devait surtout aider les agriculteurs corses à moderniser leur exploitation. Malheureusement pour les Corses, la Somivac n'a pas reçu tout l'argent qu'on lui avait promis, les travaux ont coûté plus cher que prévu, elle a dû demander de l'argent au ministère des Rapatriés. Celui-ci, en contrepartie, a exigé 75% des lots pour les réfugiés d'Afrique du Nord. Pour beaucoup de Corses, c'est une injustice, presque un vol. Pour laisser la place aux nouveaux arrivants, la Somivac s'apprêtait à expulser des Corses qui travaillaient et habitaient là depuis 20 ans. Un certain nombre d'agriculteurs y ont constitué un comité de défense.
Sans rejeter le problème des rapatriés, ils estiment que les lots de distribution des terres corses doivent être confiés au moins à 75% à des Corses. Et à mon avis, qu'il défendra mieux la terre corse qu'un corse.
Je voudrais savoir vos sentiments sur les rapatriés.
C'est-à-dire que, à mon avis, j'estime que certains sont très bien, mais d'autres sont un peu, comment dire, accaparants, n'est-ce pas? Ils ferment les routes, ils ferment l'accès aux plages. ils interdisent le passage pour la chasse. Et vous, tout ça a forcément fait un malaise parmi la population.
On a bien entendu, il nous empêche d'aller à la plage. Voilà. Jean-Marie...
Oui, la plage est peut-être à prendre en Corse. Piadia, c'est la plaine. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment la plage au bord de mer. Bon, peu importe. Je crois que d'une part, il est arrivé en Corse 17 000 rapatriés. Bon, ce qui a fait problème, c'est vraiment l'agriculture et la plaine orientale. Pourquoi ? Parce que, comme c'est dit au début du reportage, c'est le moment où, enfin, il y avait une politique de l'État pour développer la Corse, le tourisme avec la SETCO et l'agriculture avec la Somivac. Et il y a un choc d'époque qui fait que c'est en même temps que se produit l'indépendance de l'Algérie et qu'on a donc des pieds noirs, anciens gros agriculteurs le plus souvent, qui s'agit d'installer quelque part. Donc effectivement, comme ça a été dit, l'essentiel des lots va à des pieds noirs. Ces lots étaient déjà très grand par rapport aux traditions de l'agriculture corse. Donc c'est vrai qu'il y a un choc là qui va aller plus loin au moment d'Alière.
En 75, où il y a l'occupation d'une cave.
Voilà, où il y a un scandale concernant
de
les vins.
Rapatriée.
Un scandale concernant les vins chez un certain nombre de ces viticulteurs rapatriés qui touchent l'ensemble de la viticulture corse. Donc c'est vrai qu'on arrive là à Alière. Bon, qui au départ n'est destiné qu'à dénoncer le scandale, et à partir ensuite.
Mais le ministre de l'Intérieur, voilà. Dites-vous, dans votre histoire de la Corse, oui, et des Corses, c'est votre interprétation, a une attitude beaucoup trop dure, et comme le dit Edmond Simeoni, qui était le leader des autonomistes face aux notabilités rapatriées, on ne nous a pas laissé la chance de sortir la tête haute. Oui, alors si l'honneur n'est pas possible...
Oui, je crois qu'on a pensé à l'époque que le nationalisme n'était pas quelque chose de profond et qu'on pouvait le briser en un jour par une action militaire. Et la suite a montré que ce n'était pas du tout le cas, hein, bien sûr.
Dites-moi, ce sont les rapatriés qui ont amené avec eux des Nord-Africains dont ils avaient l'habitude du commandement.
Oui, c'est le début d'une immigration nord-africaine importante, effectivement.
Le nœud, à moins que ce ne soit le point aveugle de toute cette histoire que nous connaissons aujourd'hui, est à rechercher peut-être dans le rapport complexe des Corses à la colonisation.
Oui, c'est vrai que certains auteurs disent que c'est vraiment le point obscur de l'histoire corse et qu'on n'en parle jamais. C'est vrai qu'il faut voir que les rapports, disons, entre la Corse et l'Afrique du Nord sont très anciens. On parlait du Ben Tunis, il y a eu des aspects guerriers, mais enfin, quand on se combat très longtemps, on finit quand même aussi par se connaître et se ressembler. Et ensuite, les Corses représentent une part énorme de l'administration coloniale et des gens qui s'installent en Algérie, au Maroc, etc.
Mais vous insistez sur le fait que c'est au moment où la Troisième République voit s'effondrer l'économie corse qu'elle recrute des Corses pour la colonisation.
Oui, parce qu'à la fois elle les recrute et puis le système, disons, clanique en Corse, les partis politiques traditionnels, fonde son pouvoir en partie là-dessus, sur le fait qu'on peut trouver de l'emploi, même à des gens qui n'ont aucun diplôme, qui n'ont aucune formation, en les envoyant en Afrique du Nord. Alors c'est vrai que le paradoxe, c'est que souvent les qualités pour lesquelles les Corses étaient appréciés, en particulier militaires, sont liés à la société traditionnelle et en même temps leur départ vers les colonies tue cette société traditionnelle. Donc on voit que le paradoxe était fort.
Bien sûr. À quoi les nationalistes répondaient ? Vous voyez, vous, Corse, vous avez fait l'expérience de l'humiliation et vous allez la faire connaître après aux autres. Il y a eu un moment d'ailleurs tiers-mondiste chez les nationalistes. Les petits peuples peuvent l'emporter.
Oui, il y a un moment en tout cas de discours... De discours tiers-mondiste, moi je croirais quand même que ça ne concernait pas une majorité, mais que c'est ce qui était dit, parce qu'il fallait justifier quand même idéologiquement l'action, et c'était la mode. Alors c'est vrai que le livre vert du FLNC, il est tout à fait, le premier texte de fond du FLNC, est tout à fait tiers-mondiste et révolutionnaire.
Bon, la tonalité a changé. Alors nous arrivons maintenant au dernier dossier, 2016, au moment de Cisco. Talamoni, le président de l'Assemblée corse, dit qu'il y aurait, dans le Figaro hier, plus de 40 000 immigrés en Corse, dont beaucoup, en effet, sont des Nord-Africains, d'autres sont des Portugais, et jamais les Corses n'ont accepté les colonisations de peuplement. Voici comment Jean-Guy Talamoni parlait quelques jours avant l'incident de Cisco, aux journées nationalistes, pardon, aux traditionnelles journées internationales de Corte. C'était le 8 août. L'enregistrement est un peu lointain, mais les propos sont intéressants.
Le fanatisme islamiste, pour ne saurait confondre avec l'islam, menace tout le continent européen. En Corse même, l'inquiétude n'est pas absente. Dans un tel contexte, cette inquiétude se comprend. Elle est légitime. En revanche, la peur et sa sœur jumelle, la haine, sont mauvaises conseillères. Nous vous demandons de ne pas écouter les oiseaux de malheur et les cassandres intéressés qui, en France comme ailleurs, ont fait de la peur un fonds de commerce. Ceux qui misent sur le chaos pour prendre le pouvoir à Paris. Nous demandons aussi aux Corses, déjà tombés dans le piège, d'ouvrir les yeux et de relire leur livre d'histoire du XXe siècle. Dans les moments de grand péril, le peuple corse a toujours trouvé en lui les ressources nécessaires pour faire face aux agressions. Il n'a jamais adhéré à ce que la France a produit de pire. Il est en revanche demeuré attentif à ce qu'elle a produit de meilleur. Mais c'est en lui, et en lui seul, qu'il a puisé la force de dire non à ce qui ne pouvait être accepté, et notamment au XXe siècle, à la barbarie fasciste et nazie.
Alors, habile rhétorique, on ne veut pas faire comme les Thénardier, les petits entrepreneurs de haine de la France continentale. En même temps, il y a la parole qui surgit spontanément chez beaucoup de Corses. Les murs ont la parole en Corse. Il y a beaucoup de murs qui disent « I Arabi Fora ».
Oui, l'Arabie plutôt. Ben, c'est vrai qu'on le voit écrit comme ça, ce qui est une erreur.
I-A-F. Oui. Ben, moi, j'ai lu ça.
Oui, voilà, ça devrait être L-A-F, parce que bon, devant une voyelle...
Alors, allez-y.
Oui, ben, je crois que ça pose un vrai problème. Qui est que, à la fois, le discours nationaliste est tout à fait sur le thème communauté de destin, c'est-à-dire que l'identité n'est pas fermée. Elle est ouverte, elle est enrichissable par des apports nouveaux. Bon, ça, c'est le point de vue officiel. Par ailleurs, on voit bien que, prenons l'affaire de Cisco, prenons celle des Jardins de l'Empereur avant. Il y a d'abord une réaction de masse à des incivilités ou des violences. Oublions qui les a commises ou pas. En soi, c'est bien. Que les gens ne laissent pas faire n'importe quoi. Quand ensuite on déborde par des manifestations dans des quartiers qui n'ont rien à voir avec l'affaire en question, sauf le fait qu'ils sont peuplés largement d'immigrés d'origine maghrébine, là évidemment ça ne va plus du tout, c'est intolérable totalement. Hein. Et je crois qu'il y a à réfléchir justement sur cette notion d'identité. C'est-à-dire qu'il faut refuser absolument toute idée d'identité fermée et figée. Et pour être un vrai Corse, il faudrait être ceci, cela, cela. Il y a un discours sur le christianisme aussi qui est tout à fait inacceptable, qui n'est pas celui de l'Église. Mais en gros, la Corse est chrétienne, point final. Donc, pas d'islam, mais pourquoi pas d'athéisme. Bon,
Paoli disait quand même qu'il fallait ouvrir la Corse aux Juifs s'il voulait voter.
Oui, tout à fait. Paoli, interrogé sur l'accueil d'un Juif à Île-Rousse, dit qu'il peut pratiquer sa religion, il peut voter, il n'y a pas de problème.
Pas de meilleure référence, là vous êtes incontestable, personne ne viendra vous chercher des poux dans la tête en Corse. Où vous allez rentrer, Jean-Marie Arrigui, votre histoire de la Corse et des Corses avec Olivier Jevas aux éditions Perrin. L'émission était préparée par Franck Olivard avec Martin Penet à la réalisation. Valérie Aistaraï, à la technique, Alexandre Chenet.